Vous écoutez RTL.
Aujourd'hui, nous recevons Élodie Fontan et Philippe Lachaud. Les deux sont avec nous.
Bonjour.
Et ça va. En général, ils viennent une fois avant le film, oui. Mais oui. Il y avait une telle promo autour de ce film à Libi.com qu'on a préféré les recevoir.
Pour un autre film,
non,
dans lequel on joue
nous
pas.
Nous volons au devant de la victoire, 2,5 millions d'entrées. Wow. On s'est dit que là, oui, c'est là. Vraiment un phénomène. Il fallait absolument que vous veniez nous en parler. Je vous présente d'abord mes petits camarades. Bonjour.
Ah bonjour Qu'est-tu Stéphane, Qu'est-tu
c'est moi Madame c'est Peggy, Carrefour.
Ça fait longtemps Peggy. Qu'on s'est pas vu. Hein.
Ça fait longtemps, mais oui. tu avais disparu, tu venais plus aux soirées.
Alors, et j'étais plus invitée, oui. J'ai forcé la porte. Et,
on va parler de Carrefour, on va parler
et on va parler du Maroc aussi.
Du Maroc, voyager. Oui, il y a une promotion sur les voyages.
On n'a pas de prostate ce matin.
Non, non. Ça va, non, pas tous les jours.
Non, non,
alors, il a trouvé grâce à vous un alibi pour gratter sa guitare. Il placera même sa voix dessus juste après le journal de midi. Hold Olaf.
C'est moi, voilà. Je suis super heureux de faire une chanson pour vous. Ça va être un moment merveilleux, je pense.
Oui. Régis Maillot est avec nous.
Bonjour.
Il essaye de nous faire croire depuis des mois qu'il est en tournée dans toute la France.
C'est vrai,
mais nous savons bien que c'est un alibi foireux. Mais on lui fait croire qu'on est tombé dans le panneau.
Ouais. C'est sympa.
Voilà.
C'est très sympa.
Je voulais simplement, au nom de l'équipe de À la Bonne Heure, présenter toutes mes condoléances
à qui?
À Patrice Carmouche.
Ah, il est pas
c'est
bien.
Passé. Bah, le 6-1, ça
mais,
va.
Mais d'accord. On parle d'autre chose.
Il va se mettre en arrêt maladie.
Je suis en dépression.
Surtout quand je pense que vous êtes allé exprès à Barcelone.
Ben oui.
Et bon, ça vous a coûté cher.
Alors, 5 000.
Arrêtez de pleurer.
Éric Dussard est avec nous.
Bonjour à tous.
Et il tenait à vous donner, vous n'en avez pas besoin, quelques conseils beauté.
Non, c'est pour nous tous. Hein. Elodie est peut-être celle qui en a le moins besoin, d'ailleurs.
On verra ça dans votre zapping télé.
Oui, alors notamment des petites crèmes aux fientes de pigeon.
Ah oui,
oui, c'est très sympa. On peut s'en faire dans la rue, d'ailleurs, c'est très sympa.
Oui, il suffit d'attendre.
Et le test musical de Patrice Carmouse, consacré à des chansons qui nous parlent d'alibi. Elles ont pour thème les gendarmes et les voleurs.
Ils ont tous besoin d'alibi.
Oui, exactement. À la clé, un très beau cadeau offert par le groupe des casinos et hôtels du groupe Partouche.
Sans rire.
Oui, absolument. Ouais. C'est un 7 jours pour un week-end, vous voyez, pour deux personnes.
Par exemple, c'est
ah, alors, il y a le, l'Aquabella à Aix-en-Provence, par exemple. Oui. Le casino hier, le Cosmos à Contrexéville. Vous avez le choix.
Stéphane,
allez voir sur partouche.com.
Vous remarquerez que Patrice a placé en sous-couche sa vanne habituelle. Il y en a Partouche. Oui. On ne relève plus, hein, Patrice.
Ah, je l'ai pas. Merci d'avoir relevé.
Elle est bonne, hein.
Un peu comme les buts contre le Barça.
Ouais. Tac. Alors, à 11h40, avec notre invité surprise, eh bien, nous transformerons en détective pour savoir qui découvrira la 9e planète de notre système solaire. Eh bien, moi, il y a pas peu
nous,
de
hein.
chance. Mais non,
ouais, peut-être vous pouvez.
Allez, ah oui, je vous présente nos invités. À l'heure de la dictature de la transparence, où il faut sacrifier son intimité sur l'autel de la vérité absolue, il a réussi à faire une comédie déjantée sur le mensonge et célébrer avec un véritable esprit subversif les vertus de l'alibi pour camoufler une infidélité. Hein, c'est parfois utile. Ou offrir aux clients de son agence les meilleures excuses et stratagèmes possibles pour s'extirper des situations indélicates et délicates. Avec ses deux associés, Julien Ruti et Tarek Boudali, il oppose aux gardiens de l'honnêteté, voire de la morale, des scénarios totalement loufoques, mais complètement revendiqués. Après Babysitting 1, Babysitting 2, son nouveau film Alibi.com, présenté au Festival de l'Alpe d'Huez, est un formidable succès en salle et a déjà réuni plus de 2,5 millions de spectateurs coiffant au poteau toutes les comédies françaises traditionnelles. Il faut dire que ce jeune homme qui réussit l'exploit d'agréger des acteurs chevronnés comme Nathalie Baye et Didier Bourdon à sa bande de joyeux drilles s'est peu à peu imposé comme le nouveau maître de la comédie qui ne se refuse rien, ni les jolies romances, ni les scènes d'action, encore moins les blagues faciles ou des gags de mauvais goût, mais qui nous font rire, en s'offrant même le luxe d'inviter au festin des personnalités comme Kad Bérad, Michel Larocque ou Joey Starr. Il vient ce matin avec l'actrice que nous avions repérée dans Clem, qu'il avait embarquée dans Babysitting 2, et plébiscitée dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est un très bon choix, Philippe.
Ouais.
Retour sur le phénomène Alibi.com avec Philippe Lachaud et Élodie Fontan.
Je pense qu'on peut arrêter l'émission ici.
Ouais,
voilà,
joli.
J'ai trouvé ça magnifique.
Vous pouvez l'acheter dans là-dessus. Mais il est assez cher hein, quand même.
Non, mais c'était un très beau succès dont on avait
merci,
envie
hein.
de parler. Alors, je vous ai préparé une petite interview loufoque, un peu à ce que vous, la manière de ce que vous faites. La chaud, la froid.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes avec Élodie Fontan et Philippe Lachaud. Alors, Lachaud, Lafroy, Élodie, vous répondez aussi, hein, évidemment. Plaisir. Qu'est-ce qui vous rend chaud comme la braise ou chaude,
je sais pas. Moi, je vais le laisser répondre du coup.
Il est très direct. Oui.
Qui me rend chaud comme la braise. Bah, c'était à la base le match d'hier soir.
Oui. Ouais. Ouais.
Voilà, et ça m'a bien refroidi.
Là, on l'a eu
froid comme un glaçon.
On l'a eu chaud, on l'a eu froid.
Quelle horreur.
Vous supportez le froid de canard?
Non.
Non.
Ah non.
Vous aimez les pieds chauds.
Ouais.
Le soleil.
Et qu'est-ce qui vous fait chaud au cœur, Élodie?
C'est dur comme question. Qu'est-ce qui me fait chaud au cœur?
J'aime beaucoup les animaux.
Ouais.
Ah oui.
Ah ouais.
Oui.
Ah ouais, je suis une passionnée de chevaux. Mm-hmm. Donc effectivement, me retrouver à la limite en forêt, à cheval, seule, voilà. Ça me fait chaud au cœur.
Seule déjà.
Ouais, non, mais oui, pour tout sortir de la tête, ouais. C'est le meilleur des remèdes, je trouve. Mm. J'adore.
Qu'est-ce qui vous donne froid dans le dos?
Le mensonge.
Le match d'hier.
Là, vous pouvez faire tout l'interview avec
ça. Ouais. Ah ouais, je suis encore
tombé. Oui, c'est rendu chaud et froid.
Et quand on dit, par exemple, oh, ça me fait ni chaud ni froid, il y a des choses qui vous font ni chaud ni froid?
Oh là là.
Ouais. C'est des... ah, c'est pas facile.
C'est hyper dur. Ça paraît hyper simple, mais c'est hyper dur.
Ah, faut pas le match d'hier, évidemment.
Ni chaud ni froid, non. Ouais, non, ouais. C'est... un truc toi
là tout de suite non je comptais sur toi.
Ah, c'est,
sur toi.
Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'idées ou de scénarios que vous gardez au chaud?
Ah oui, en fait bah, ça fait tellement longtemps que oui. Je veux faire ça et tellement personne croyait en
vous,
en moi. Oui. Que du coup ça s'est accumulé. Oui, j'ai encore plein d'idées dans le tiroir.
Ouais. Mais en même temps c'est toujours la dernière idée qu'on a envie de
non réaliser. Parce qu'Alibi vous l'aviez
ouais. En même temps en que 2009 que... je crois c'est une idée qui date de 2009 ou 2010 où j'avais vu un reportage à la télé sur ces sociétés d'Alibi parce que c'est des sociétés qui existent.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc voilà, j'ai gardé ça au chaud et avec le succès de Babysitting et Babysitting 2, j'ai pu ressortir cette idée et la faire par la suite.
Parce qu'on y reviendra, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que toutes vos idées étaient rejetées par les producteurs. Puis tout d'un coup, quand vous faites un succès, deux succès, comme par hasard, vous devenez un génie dans ce pays. C'est quand même incroyable.
Oui, ouais, bah, c'est normal.
C'est
partout
pareil.
C'est comme pareil. Ça que ça marche. Oui, c'est...
Bon, ça vous fait ni chaud ni froid, ça. Ouais, voilà,
belle image. Merci. Ah, vous l'avez bien.
Ouais. Oui.
ça vous arrive de battre froid ou de... à quelqu'un ou...
Alors, je suis désolé, je connais pas cette expression.
C'est du Stéphane Bern, 1854. Ça veut dire snobber quelqu'un.
Snobber, oui, oui.
Ah, snobber quelqu'un. Oui, oui, non, oui. Non, surtout pas.
Jamais.
Parce que je reprends une expression que j'utilise souvent, c'est faut toujours être gentil avec les gens que tu croises en montant, parce que tu les croiseras toujours en redescendant.
C'est vrai. C'est vrai. Mm. Mais les problèmes, quand ils se posent, vous les réglez à chaud ou à froid?
C'est pas mal, ça.
On se désolidarise de cette interview.
Je les règle à chaud.
À chaud, oui.
La chaud. Je les règle à chaud.
La chaud. Mais sinon, vous gardez votre sang-froid.
Il en a pas mal. Hein.
Ah oui, mais des expressions avec chaud et froid,
oui,
il y en a plein.
Ouais, ouais. Oui. Ouais, même face à des interviews très bizarres, je garde beaucoup de sang-froid.
Oui, c'est important. Dans le film, il y a pas mal de chauds lapins. Vous-même, vous rangez dans quelle catégorie?
Ah non, mais il y a même du verlan, des chauds lapins.
Oui.
La chaud, chaud lapin.
Oui,
ah, c'est
la
très fort.
La chaud,
très
fort.
Non, ça, c'est pas fait exprès. Hein.
C'est très fort. Je ne me considère pas comme un chaud lapin. Il faudra demander aux personnes qui me connaissent bien.
Élodie.
Non, est-ce que vous
je
aimez
les chauds lapins? Je n'aurais pas la prétention de savoir répondre. Non, absolument
non, pas.
Pas.
Bien sûr. Vous êtes une jeune fille bien, comme
exactement,
tout rapport.
Comme mon personnage.
Voilà, exactement. Bon, on va y revenir justement au film Alibi.com qui cartonne, qui marche très très fort sur, en salle. Et c'est bravo, c'est une chance. On va vous retrouver dans un instant avec la joyeuse équipe d'À la bonne heure. À tout de suite.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes avec Philippe Lachaud et Élodie Fontan. On voulait revenir avec vous quand même ce matin sur l'immense succès d'Alibi.com, votre troisième film, Philippe, mais le premier que vous réalisez seul et dans lequel vous jouez avec une brochette d'acteurs. On y reviendra, dont Élodie, évidemment. Le film est sorti le 15 février. J'ai vu ce matin qu'on a été déjà à 2,5 millions d'entrées. C'est donc un phénomène. Vous avez déjà connu deux beaux succès, 5,5 millions pour Babysitting 1
de 5,5 millions
avec les deux.
Babysitting et Babysitting 2.
Avec les deux.
Ah oui, pardon.
Les deux. Alors, est-ce que vous êtes, j'ai le sentiment que vous êtes en train de devenir le nouveau metteur en scène de comédie française, un peu le successeur de Broca, Molinari, Lautner, Zidi. C'est des ça vous plaît, cette comparaison?
Bah, on peut encore arrêter l'émission ici, si vous voulez. ça me va encore.
Non, mais on peut rééquilibrer avec d'autres questions, interview chaud-froid, si vous voulez.
Non, mais c'est
vrai.
Vous attendiez un tel succès?
Bien évidemment que non, parce que c'est un rêve éveillé qu'on vit depuis Babysitting et qui s'étire vraiment. On a une chance folle parce que c'est en 3 ans, ces 3 films se sont faits en 3 ans et c'est vrai que ça n'arrête pas de marcher pour nous. Babysitting, quand on l'a fait, comme je le disais, personne n'y croyait, personne ne voulait le faire parce qu'on n'avait jamais vraiment fait de cinéma, on n'était pas connus, donc personne ne nous suivait et voilà, on a eu cette chance folle que Babysitting marche. D'ailleurs, on en a fait un deuxième parce que l'aventure était tellement folle, on a voulu prolonger ça, ça a marché encore plus. Et là, on fait Alibi. C'est vrai que les gens nous attendaient, ils nous disaient est-ce qu'ils vont savoir faire autre chose que Babysitting?
Et mais c'est final, un peu différent quand même. Hein.
Alors que c'est différent, bien sûr, le sujet est complètement différent.
C'est vrai, comédie.
Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus traditionnel comme film.
Le traitement est différent, oui. Parce que
bien sûr.
Babysitting, c'était neuf dans la grammaire, l'écriture.
Mais il y avait une référence, il y a toujours des références chez vous. D'ailleurs, il y avait Gérard Jugnot et Christian Clavier dans Babysitting 2, qui avaient des références au bronzé aussi, hein, ça se passait sous les cocotiers aussi. Il y a toujours des scènes d'action incroyables. Dans Babysitting, il y avait un avion. Là, il y a une cascade de voitures.
Enfin, parachute,
la falaise, oui.
Vous adorez ce genre de choses, on le sent.
Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, on écrit pour nous. Donc, en fait, les scénarios qu'on écrit, je compare souvent ça à une baguette magique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va écrire dans le scénario, on va le faire en vrai. Oui. Donc, si on se dit, tiens, ce serait marrant qu'à ce moment-là, il se passe du pas, enfin, qu'on saute en parachute, on écrit une ligne dans le scénario, saute en parachute, et un an après, on se retrouve à vraiment sauter en parachute.
Il y a un producteur qui met un chiffre à côté. Voilà, c'est ce que ça va me coûter. Ça.
Et donc, on a cette chance de pouvoir écrire pour nous. Et du coup, comme on aime bien des fois les scènes d'action, les scènes de cascade, on se fait plaisir.
C'est ce que disait Stéphane, justement, ça vous donne plus de latitude pour faire absolument ce que vous voulez dans le film. Le fait d'avoir eu du succès en termes de budget, vous pouvez faire beaucoup plus de choses que sur le premier Babysitting, par exemple.
C'est vrai que on est plus. Déjà, on est payé, donc déjà, ça change quelque chose par rapport à Babysitting.
C'est un plus.
Donc, déjà, on touche de l'argent, donc ça, déjà, c'est pas mal. Mais après, voilà, on fait attention surtout à pas s'envoler, parce qu'on pourrait faire des films, ça serait beaucoup plus cher, mais on essaie de pas faire ça, parce que tout simplement, parce que ça met une pression terrible. Plus le film coûte cher, plus il faut faire d'entrée pour que ce soit rentable. Et le premier jour de sortie, du coup, on essaie vraiment de travailler comme dans des économies réduites.
Là, vous avez dépassé tout le monde. Alors, il faut dire que l'histoire elle est partie d'une idée simple. C'est vrai qu'il y a eu toutes ces sociétés qui sont montées pour donner des alibis à des gens qui prétendaient une chose et qui en faisaient une autre. Et notamment en matière d'infidélité, où il y a même des gamins qui disaient qu'ils avaient une bonne excuse pour pas aller en cours. Et donc, vous leur fournissiez. Et donc, mais il y a une histoire amoureuse aussi entre vous.
Et juste la parenthèse, ce qui est fou, c'est que ces sociétés existent. Hein. C'est inspiré vraiment de sociétés et même d'applications téléphoniques qui ont été inventées pour mentir, pour recevoir des faux textos aujourd'hui. On peut appeler avec des fausses ambiances sonores pour faire croire, par exemple, qu'on a un match de foot, alors qu'on est au lit avec quelqu'un. Tout ça existe. Donc, on trouvait le sujet tellement fou. C'est drôle.
Les joueurs du PSG, ils étaient au Versailles. Ils étaient chez eux.
Ah ouais, ils étaient au pur.
Fictif.
Élodie, vous êtes cliente quand Philippe écrit. Vous jouez Flo, vous êtes une jeune femme dont Greg, donc le fondateur d'Alibi.com, est amoureux. Le problème, c'est que vous détestez le mensonge. Donc, il va essayer de vous cacher la réalité de ses activités.
C'est ça. Oui, elle est très intransigeante, elle ne supporte pas le mensonge. Donc, effectivement, c'est pas de bol pour le coup.
Il va
tomber sur votre père
qui
est client de la société de mensonges. Ouais. Parce qu'évidemment, il a des choses à cacher lui aussi.
Effectivement. Oui.
On vous a connu à la télévision, je le rappelais tout à l'heure, dans Clem, au cinéma dans Babysitting 2. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous êtes la fille cadette de Christian Clavier et de Chantal Lobby. Est-ce que. Les gens vous ont découvert d'une certaine manière, mais aujourd'hui vous êtes une actrice reconnue. Vous avez le sentiment que c'est allé vite, et pour vous et pour Philippe, ou
que c'est allé vite? Moi j'ai commencé à faire des films toutes petites, donc vite. J'ai fait beaucoup de télé, j'ai eu du mal à passer quand même au cinéma. J'ai réussi à passer le cap avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, effectivement. Et effectivement, derrière, ça a été très vite. C'est-à-dire que le succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça nous a complètement dépassé. On avait fait 12 millions, donc c'était n'importe quoi. On avait du mal à réaliser, je crois, pour un premier film. Et après, oui, il y a eu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Alibi. Donc j'ai eu la chance, effectivement, d'enchaîner des jolis projets. Mm-hmm. Je suis très contente.
Elodie a commencé à 9 ans déjà. Elle joue dans le plus beau métier du monde avec Gérard Depardieu. Vous avez fait de Gérard Depardieu, Michel Larocque.
Oui, j'ai eu des parents sympas. Gérard Depardieu, Michel Larocque. Après, Christian Chantal. Et là, Didier Bourdon,
et Elodie,
c'est pas mal.
Les prochains, je sais pas qui ce sera. Mais...
Non, mais Elodie est un porte-bonheur vraiment pour le cinéma français, je vous jure, parce que tous les films qu'elle fait, son premier film, Le plus beau métier du monde.
Non, on va rester sur le porte-bonheur, je vais arrêter aussi l'émission là-dessus, que tout le monde
dans Babysitting 2, vous le draguiez. Dans Alibi.com, vous êtes fiancé.
J'ai enfin conclu, voilà. J'ai réussi, il était temps.
Bon, mais on est content pour vous alors. Mais il faut dire qu'il y a pas mal de guest stars dans le film aussi. Il y a Cadmer, Michel Larocque, enfin. Joey Starr, très drôle, Mehdi Sadoun. Enfin, voilà, en tout cas, maintenant, tout le monde accourt. Il y a Philippe Lachaud qui téléphone pour faire un film. Tout le monde vient vous voir.
En tout cas, on les remercie parce que vraiment, si c'est pas Joey Starr qui joue le rôle du rappeur gay, c'est moins drôle. Donc, on les remercie drôle, pour ça, leur autodérision et de jouer le jeu. Et voilà, c'est un beau cadeau qu'ils nous font tous. Oui. Vraiment.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous retrouvons Philippe Lachaud et Elodie Fontan pour Alibi.com. Alors, il y a beaucoup de... Il y a également Julien Ruti, j'en ai parlé, Tarek Boudali, Nathalie Baye, Didier Bourdon. Enfin, ils sont tous... c'est toute une joyeuse équipe. Est-ce que je sais pas, le film a ce succès phénoménal. C'est vraiment un phénomène. Hein, en 15 jours, 3 semaines... 2 millions et demi d'entrées. En même temps, il y a beaucoup de critiques de gens qui adorent, le public adore évidemment, mais il y a des critiques qui disent que vous avez cette fantaisie, puis alors d'autres qui se bouchent le nez, qui se...
Des journalistes, vous parlez.
Oui, oui.
Qui n'acceptent pas votre univers.
Qui n'acceptent pas du tout votre univers. Ça vous touche? Vous lisez?
Objectivement,
vous lisez
c'est vrai, quand on lit des critiques, ça nous fait plutôt rire quand c'est très, très violent. Mais en fait, faut aussi remettre dans le contexte. Et souvent, ces gens-là, des fois, ne sont pas la cible, tout simplement, mais sont obligés d'aller voir les films. Oui. Du coup, ils sont obligés d'aller voir le film pour émettre une critique. Et ils se retrouvent souvent à deux dans une salle. Parce que où le film leur est projeté un matin à 9h, où ils n'ont pas envie d'aller, et ils découvrent le film, donc forcément ça...
Ils sont en colère,
ça n'arrange rien.
Ils ne sont pas dans des bonnes
conditions. C'est toujours différent de voir le film dans une salle avec un vrai public, le soir, dans une ambiance, que 9h du matin, un film où on n'est pas forcément la cible. Mais c'est pour ça, le plus important, évidemment, c'est la réaction du public.
Évidemment. Et alors, vous mettez en danger dans tous les films. Il vous met aussi en danger, n'est-ce pas? Ça vous plaît, Elodie?
Oui, je trouve que le job de comédien et de comédienne, en tout cas, c'est aussi de prendre des risques et de s'amuser à aller là où on ne va pas d'habitude, à sortir un peu des sentiers battus. Et je trouve ça très, très plaisant. Ça, j'adore.
À part le zèbre. Le zèbre est un animal qui fait peur.
Ah oui. Hein, vous avez il a peur, surtout.
Il a peur, le zèbre.
Oui,
il a parce que c'est une proie.
Qui a eu l'idée du zèbre?
C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on a tourné avec plein d'animaux, dont un zèbre. Oui. Et c'est vrai que c'est particulier parce qu'on nous expliquait que comme c'est une proie dans la nature, il a cet instinct. À chaque fois, il est sur la défensive. Et mon frère s'est mangé un bon coup de. Mon frère réalisait le making of du film. Il s'est fait casser la caméra.
Mais comment on fait le casting d'un zèbre? Il y a un casting zèbre.
Alors le casting.
Celui qui a les plus belles rayures.
C'est ça. Les défis, les parades.
Mais c'est pas un poney qui a été peint.
C'est arrivé dans des films.
Je crois.
Si, à un moment, on prend un âne qu'on peint à moitié pour faire croire qu'on est en Tanzanie. Et du coup, mais en termes de casting, c'est vrai qu'il y a une anecdote que j'avais déjà racontée. Et à un moment, c'est vrai qu'on voit les fesses de Nathalie Baye collées contre une vitre, enfin une porte fumée. Et ce n'est pas les fesses de Nathalie Baye, on l'avait dit. Et du coup, j'ai dû réaliser un casting de fesses. Voilà.
Une sale journée.
C'est là qu'on fait un métier.
37 paires de fesses. Hein,
c'est ça. On m'a présenté. Donc j'ai un assistant qui allait prendre en photo à peu près 30 paires de fesses et qui me les a présentées. Et j'ai dû choisir. Comme je ne connaissais pas les vraies fesses. J'ai dû imaginer. Voilà. Et je voulais la mettre en valeur. Du coup, j'ai choisi une belle paire.
Non, mais vraiment. Et sur son contrat, c'est marqué doublure fesses.
Oui, je ne sais pas ce qu'il y a marqué. C'est doublure fesses, peut-être.
En plus, il faut tester la fesse contre la vitre.
Ah oui.
Absolument.
Ça a l'effet goutte d'huile, si vous voulez, contre la paroi de verre.
C'est ça.
C'est les bombes de la fesse.
C'est ça. C'est formidable. Mais... C'est très bien passé, en tout cas, sachez-le.
Mais c'est vrai, on parlait de Didier Bourdon, de Junio, de Clavier. C'est un peu aussi des références qui sont les vôtres. C'est-à-dire, il y a eu le Bronzé, il y a eu les Inconnus.
Oui, oui, non, mais c'est un honneur et c'est une fierté incroyable de tourner avec toutes ces personnes-là qui vraiment. moi, notamment donc les inconnus, donc je connais vraiment les sketchs par cœur. Et le plus dur pendant le tournage, c'était d'essayer de ne pas lui sortir toutes ses répliques de sketch. Chaque fois qu'on avait un problème, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire attention, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Et je me retenais pour ne pas être lourd, pour ne pas jouer le fan. Je sens que ça les met mal à l'aise, en fait, quand on est trop à leur raconter, leur refaire leur sketch ou quoi. Je sentais que ça m'était mal à l'aise, du coup, voilà, on était en retenue là-dessus, sur notre fanattitude.
On va essayer d'en savoir plus sur vous grâce à notre police des informations. C'est vrai que, dans un instant...
L'interview, c'est vrai que...
Alors, quelques questions vous concernant, Philippe et Elodie. Alors, Philippe, vous avez toujours eu la passion du cinéma. Il paraît que vos parents vous ont obligé à passer le bac, mais tout de suite après... Vous avez fait des études de ciné, surtout pour trouver des stages. À 15 ans, vous avez tellement tanné vos parents qu'on vous a même offert une caméra numérique.
Ah, vous êtes bien, bien renseigné. Même mes parents avaient emprunté l'argent à des amis parce qu'ils n'avaient pas les moyens de me payer cette caméra. Voilà. Donc, la famille Dugimon, que j'embrasse au passage.
Qui attend toujours le remboursement.
Voilà. C'est ça. Ouais,
c'est une belle histoire.
Et effectivement, depuis tout petit, moi, je leur disais que je voulais faire du cinéma. Sauf que mes parents, ma mère était couturière, mon père travaillait dans les assurances. Donc rien à voir, on ne connaissait personne. Et ils m'ont dit, écoute, ils n'y croyaient pas beaucoup, je pense. Ils me disaient, passe ton bac, comme ça tu auras au moins... Un diplôme, oui. Voilà, et après tu feras un peu ce que tu voudras. Et il m'avait acheté cette caméra, et depuis que j'ai eu cette caméra, c'est vrai, à 15 ans, je n'arrêtais pas de tourner, avec mes copains d'ailleurs, il y a pas mal qui sont dans le film, et voilà, et on tournait tous les week-ends, ça nous a fait, on avait du coup plein de sketchs, et après, qu'on a pu balancer à toutes les chaînes télé, machin, pour essayer de faire de la télé d'abord, parce que ça nous semblait un peu plus accessible.
Pour après le cinéma.
On avait tous les exemples, on voyait José Garcia, Jamel, tous ces gens-là qui passaient par la télé, les nuls, les inconnus, et après faisaient du cinéma.
Mais dès le départ, c'était votre objectif, c'était juste une passerelle pour aller vers le ciné.
Ouais, parce que le ciné me semblait tellement inaccessible, je savais même pas à quelle adresse envoyer mes cassettes, parce qu'à l'époque, c'était les cassettes VHS que je sortais, je savais même pas à qui les envoyer, alors que les chaînes de télé, j'avais une adresse plus concrète, les boîtes de prod, j'envoyais même à Coyote à l'époque, je me souviens.
À Patrice Carmon, qui n'a pas voulu prendre vos productions.
Il a tout mis à la poubelle.
Ah oui, je me souviens, vous avez dit ça marchera jamais.
Alors, Élodie, vous avez fait de la pub très jeune, et votre papa faisait des photos de vous pour les castings, et que le métier d'actrice est arrivé plus tard.
Ouais, alors en fait non, mon père était journaliste, et c'est un ami à lui qui lui a demandé de me faire des photos, qui était photographe, donc il m'a fait des photos comme ça, juste pour le plaisir, et en fait pour faire des photos avec lui, j'étais obligée de passer par une agence. Mais par la base, l'inscription de l'agence, c'était pas du tout pour continuer à faire des photos. Et c'est eux qui m'ont reproposé effectivement des castings derrière. Et ça s'est fait du coup un peu comme ça, un peu par hasard. Et ils m'ont proposé un jour effectivement le casting du plus beau métier du monde que j'ai passé, que j'ai eu. Et après, je me suis dit, bon, les photos, j'arrête parce que c'était pas trop mon truc. Et par contre, le cinéma ou la télé, en tout cas, j'avais adoré mon expérience de tournage avec Gérard Depardieu. J'avais été éclatée.
Ah oui, j'imagine.
Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de continuer. Un petit peu à côté de la scolarité, et effectivement passer mon bac aussi.
Donc vous aussi, vous êtes tombé dans la marmite très tôt.
Voilà.
Philippe, pour parler de votre côté fan de certains acteurs, alors je crois qu'au Festival de l'Alpe d'Huez, où était présenté Alibi, vous étiez voisin de la chambre de Pierre Richard.
Oui.
Là, comme vous ne jouiez pas dans votre film, vous avez pu lui déclarer.
Absolument. Pierre Richard, moi, c'est vraiment celui qui m'a donné envie de faire ce métier quand j'étais petit. Je voyais mes parents morts de rire devant La Chèvre et tous ces films-là, Les Fugitifs. Et je voulais vraiment faire comme le métier de Pierre Richard. Et c'est vraiment ce monsieur qui m'a donné envie de faire ça. Je n'avais jamais vraiment rencontré Pierre Richard. Et on se retrouve à l'Alpe d'Huez où on est dans la chambre voisine, c'est vrai. Et du coup, je l'entends sortir de sa chambre. Je me dépêche de sortir pour le voir et lui déclarer mon amour et le remercier. Mais c'est vrai, pour m'avoir donné envie de faire ce métier. Donc lui ne me connaissait pas, il ne savait pas qui j'étais. Je lui explique juste que je fais des comédies et je l'ai remercié infiniment. Et c'est vrai que c'était un bon moment, j'ai adoré ça. J'ai même une photo de Pierre Richard avec moi. Chez moi, voilà. Tellement je suis honnête. Et je l'avais même remercié au générique de Baby Sting 1 dans les remerciements. Je remerciais Francis Weber et Pierre Richard pour m'avoir donné envie de faire ce métier. Et aussi Terence Hill. Bon, c'était un genre différent. Mais Terence Hill m'avait donné aussi envie de devenir acteur.
En revanche, avec Brad Pitt, ça s'est un peu moins bien passé.
Ah oui, vous êtes bien renseigné. C'est vrai que je suis assez fan de Brad Pitt. Et je me retrouve pour la première fois de ma vie, je vais à Los Angeles parce que Baby Sting était présenté à un festival à Los Angeles. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouve à Los Angeles. Et un jour, je me promène dans des studios et je tombe sur Brad Pitt. C'est fou, hein, qui est... parce qu'en fait, il y avait une expo de photos et Brad Pitt est là.
Et puis il est fan. Hein.
Oui, il est fan.
Et là, je me retrouve comme, mais franchement, comme une pucelle. C'est-à-dire que mon cœur se met à battre et tout, je tremble et tout. Je me dis, mais c'est Brad Pitt, truc de fou. Et j'avais ma GoPro dans les mains et au bout d'un moment, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. Je ne parle pas très bien anglais du tout, mais dans un anglais impeccable, comme j'arrive à lui dire « Excuse me, is it possible to do a picture with you ?» Et il me répond avec un grand sourire « No ». Et je lui dis « Ok, no problem ». Et je pars. Mais en fait, je n'étais même pas déçu parce que j'avais eu un échange avec Brad Pitt. Je me dis « On a parlé ». Il m'a dit « No ». Mais voilà, donc voilà, j'étais content de cet échange.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Toujours avec Élodie Fontan et Philippe Lachaud pour alibi.com. Et alors, si vous dites, vous utilisez comme alibi que vous êtes en train d'aller à Osnabrück, par exemple, au planétarium, parce que maintenant, il y a de l'astrotourisme. Vous savez, on va dans un endroit pour observer les étoiles.
Ah bon ?
Eh bien, il faut vraiment avoir des preuves. Nous avons un invité surprise qui s'appelle Olivier Lavergnas. Là, ce matin, je massacre tous les noms.
Jean-Michel à peu près.
Oui, Jean-Michel à peu près. Président de l'Association française d'astronomie. À propos de l'appel qui a été lancé par la NASA aux astronautes amateurs pour trouver, non pas la huitième, parce qu'on la connaît, mais la neuvième planète du système solaire. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bonjour. Il y aurait donc, si l'on en croit les scientifiques, en plus de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et la Terre, ça fait 8, eh bien, il y aurait une neuvième planète solaire. D'abord, comment le sait-on, puisqu'on ne l'a jamais vu ?
En fait, il y a beaucoup plus que 9 planètes. En fait, on connaît quasiment plus de 400 000 petites planètes qui tournent autour du Soleil. Ouais. Simplement, la plupart sont très très petites, ce qui ne leur vaut pas le nom entier de planète. Et en observant les trajectoires de tous ces astres, aussi bien les grosses qu'on connaît depuis à peu près 50 000 ans, mais aussi les plus petites, ben on se rend compte qu'il y a sans doute des corps invisibles qui produisent une modification gravitationnelle. Et c'est comme ça qu'on a à peu près maintenant la certitude qu'il doit y avoir une grosse neuvième planète.
Oui, elle est très grosse, elle. Hein.
Elle est très grosse, elle fait 10 fois la Terre.
Voilà, c'est... En gros, ce qu'on voit, c'est que toute cette myriade de petits astres, de petits astéroïdes, comme on dit, qui tournent autour du Soleil, ils ont leur orbite est un peu déformée et que ça doit s'expliquer par ce gros corps qui est très loin et qui est du coup très très difficile à voir.
Mais donc on ne le voit pas. On sait qu'il est très gros, mais on ne le voit pas.
Voilà,
corps.
Et on a des hypothèses sur sa position, sur sa façon de tourner autour du Soleil. Et la question, c'est d'essayer de le repérer.
Non, mais pourquoi vous nous demandez à nous, franchement ? Parce que la NASA, elle a sans doute des outils très performants. Et pourquoi elle fait appel à la communauté des astronautes ou des astronomes amateurs ?
Le truc, c'est très simple, c'est pour trier le courrier. C'est-à-dire qu'en fait, on a lancé, on a des observatoires, on a des satellites d'observation qui font des myriades d'images.
Des photos, oui.
Et maintenant, il faut trouver où est la planète sur ces images. Et ces images, du coup, on voit la planète qui bouge par rapport au fond d'étoiles. Mais on a besoin de beaucoup de paires d'yeux pour regarder ces images.
Ah, c'est pour faire un travail de boniche, quoi. Vous comptez pas du tout sur notre intelligence, en fait.
Mais c'est pas lui qui lance ça, c'est la NASA.
C'est la NASA. Je comprends. Donc, tout le monde qui a des photos, par exemple, du ciel, peut, sur son ordinateur, en fait, passer en revue toutes les photos qui ont été prises par le télescope WISE. Et puis, on a peut-être une chance de savoir où est cette planète.
En fait, vous avez un outil qui est absolument génial, malheureusement en anglais, mais qui s'appelle zooniverse.org. Et ce sont des projets collaboratifs comme ça. Il n'y a pas que de l'astronomie, hein. Il y a des tas de trucs en sciences humaines, en biologie, zoologie.
C'est génial.
On télécharge des données scientifiques qui ont déjà été acquises.
Ouais.
Par exemple, il y a des études sur les cyclones au 19e siècle à partir des journaux de bord des grands bateaux. Il y a des études sur les livrets militaires des soldats de la Première Guerre mondiale. Il y a des études sur les rapaces aux États-Unis. Donc, on vous fournit des données. Vous recevez en ligne toute une série de données à étudier et vous contribuez à les explorer.
Et on gagne quoi si on... On gagne quoi si je vous trouve la neuvième planète ?
Alors, votre nom, Stéphane.
Éternelle. Alors, si vous trouvez une comète, vous laissez votre nom. Mais si vous trouvez une planète, malheureusement, vous gagnez que notre reconnaissance éternelle.
D'accord. Et
c'est rentrer dans l'histoire quand même.
Juste une dernière question. Franchement, c'est important de savoir qu'il y a une neuvième planète ou pas ?
C'est-à-dire que ça sera de plus en plus important parce que on se balade dans le système solaire maintenant. On reste plus tellement dans la banlieue. On va un peu plus loin. Donc, du coup, connaître vraiment le champ de gravitation, c'est quand même pratique. pratique, quoi. Oui, c'est ça, voilà. C'est le Grand Paris.
Bah, écoutez, merci pour vos explications, qui étaient parfaites, Olivier Lavergnas, président de l'Association française d'astronomie. Voilà, on va retrouver quelqu'un qui n'est pas une étoile ni une lumière, mais
bon, tout juste.
En même temps, bon, il nous fait rire avec la télévision.
Et on l'a déjà trouvé.
Oui. Ouais, c'est bien. Et j'étais pourtant pas la plus grosse.
Une méchanceté, je m'étrangle, vous voyez.
À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec notre invité du jour, Philippe Lachaud.
Oui, tout va bien Philippe ? Tout se passe bien pour l'instant avec nous ?
Formidable.
Non, parce que sinon, si vous voulez, je peux toujours appeler Yann Moix. Je sais que la dernière fois, lorsque vous êtes allé dans On n'est pas couché, il a été très 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 sympa Yann, comme d'habitude j'ai envie de dire.
Et à chaque fois que je suis venu, j'ai eu beaucoup de chance.
Par contre, attendez, vous avez une petite tendance à laisser sous-entendre que vous faites chier quand ce sont les autres qui parlent, que j'avais déjà remarqué dans la précédente émission. Alors ce soir, c'est long quand même, on va vous demander de vous concentrer sur les autres qui ont également de l'intérêt.
Mais qu'est-ce qui vous prend?
Non, j'ai remarqué ça chez lui. Hein. Il est là quand les autres parlent, c'est vivement ma promo. Et quand sa promo est terminée, c'est vivement qu'on baisse ce soir.
Ou alors ça, c'est complètement faux, les gens sortent de l'enregistrement vers 4h du mat, oui. Ils ont juste envie d'aller se coucher, ils sont canés. Hein. Donc vous étiez déconcentré? Ou c'était Yann qui était très concentré sur vous?
Non, non, mais en plus, j'ai eu de la chance à chaque fois, Yann, moi, c'est vrai.
Ouais, plutôt sympa, gentil. Par ailleurs.
Ouais. Il aime bien, oui.
Ouais, ouais, mais il a été trop gentil d'un côté, il s'est dit, tiens, je vais mettre un petit tac. Ouais.
Voilà, ça, c'est possible.
Alors, vous étiez sur le plateau de cette émission déjà pour parler d'alibi.com, oui. Où vous fournissez, on le rappelle, donc des alibis en tout genre. Et alors, j'en connais un à qui je déconseille très, très fortement d'aller voir ce film, car ça ne ferait que renforcer sa très légère paranoïa. C'est ce monsieur qu'on avait vu dans Zone Interdite sur M6. Qui espionne sa petite amie.
Persuadé que sa compagne le trompe pour en avoir le cœur net, il a caché une application dans son téléphone. Il peut ainsi en consulter le contenu et la suivre à la trace.
Là, on voit, elle est sur le boulevard Murat. Même si j'ai raté quelque chose, il suffit que je me connecte et puis je peux avoir accès à l'enregistrement des communications qu'elle fait.
Pour 300 euros par an, Nicolas a accès à la totalité des options. Cela fait 6 ans que Nicolas espionne ainsi sa compagne. Nicolas n'a jamais rien découvert de compromettant.
C'est moche, hein. 6 ans qu'il paye une fortune pour rien. Elle pourrait faire un petit effort quand même. Elle pourrait le tromper au moins une fois. Je sais pas qu'il paye pas pour rien. C'est affreux, elle peut vraiment tout enregistrer. Je vois que Stéphane est très stressé quand il entend ça. Il regarde son téléphone.
Surtout, elle le sait maintenant, non ?
Bah, je sais pas, 6 ans, ouais, quand même. Ouais. Il devrait se rendre compte que non, il n'y a pas d'infidélité. Apparemment, il attend ça avec impatience,
oui.
En fait.
Qu'elle le trompe, peut-être. Ouais.
Non, mais il y a des psychopathes c'est de étrange. La surveillance. Ouais. Souvenez-vous aussi de ce couple qui avait été condamné par la justice car il s'était fait un remake de Love Story avec l'appartement qu'il louait à des étudiants.
Ils avaient mis des caméras partout dans le studio qu'ils ont loué.
En cachette ?
Oui, en cachette, ils avaient mis 17 caméras dissimulées dans leur appartement, louées à des employés saisonniers, y compris dans la douche et tout ça. Et il s'est rendu compte dans sa douche qu'il y avait un truc un peu bizarre. Il a gratté, il a vu une caméra tomber d'un faux plafond. Il a commencé à fouiller tout l'appartement. Il s'est rendu compte qu'il y en avait dans la chambre à coucher. Non, machin,
c'est...
Il y en avait
ça, c'est partout.
Ouais, bah, c'est exactement ce que Stéphane a fait dans notre bureau. Patrice, le petit fil qui pendouille au-dessus de votre lampe.
C'est ça.
C'est Stéphane. C'est pour ça qu'il a toujours les réponses pour le quiz musical. Parce qu'il regarde ce que vous tapez sur votre ordinateur.
Exact, ça va directement sur son écran.
Exactement. Tout s'explique.
On doit aussi à cette émission de France 5 des conseils beauté.
Oui, La Quotidienne nous a présenté des produits absolument miraculeux pour notre peau. Et en plus, alors totalement bio.
On vous en a sélectionné quelques-uns. On peut trouver par exemple des soins à la fiente d'oiseau. Oh. Mais il paraît que c'est exceptionnel pour hydrater la peau. C'est un rituel japonais. Oh. C'était le rituel beauté des geishas.
Si tu ne sais pas. Hein ?
Fiente de rossignol ou de pigeon sont, paraît-il, celles qui ont les plus grandes propriétés.
Pigeon, voilà, donc maintenant qu'on prendrait des fientes de pigeon sur la tête en pleine rue, au lieu de vous plaindre, vous les étalerez sur le visage. C'est bon pour votre peau, c'est un soin pas cher, particulièrement à Paris. C'est très, très hydratant. Ça donne envie. Mais on a encore mieux.
Pour éviter le contour des yeux, quand même.
Ça peut piquer un peu, ouais. Attendez, Régis, parce qu'il y a encore mieux. Voici le Neck Plus Ultra du cosmétique.
Et alors, dernier produit, il paraît qu'on vendrait des soins au sperme de taureau.
C'est exact. Ah oui. Ouais. Mais attention, ce n'est pas forcément l'animal. J'ai vérifié, taureau, c'est le signe astrologique de Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il est né le 25 avril. Donc méfiance sur la provenance des produits.
Non, ils font surtout ce qu'ils mangent. Hein. Comment vous prélevez?
C'est ça,
oui. Ah, ça doit être compliqué.
C'est l'idée d'aller chercher du sperme de taureau.
Il faut que le taureau soit sympathique.
Dans le meilleur des cas, on a un soin cosmétique. Dans le pire, bon, il va y avoir une bonne mutuelle.
Monique, va voir le taureau, là. On a besoin d'un échantillon.
Mets ton écharpe rouge.
Ça doit être un peu risqué, ouais, de recueillir, je pense. Voilà donc pour votre peau. Parlons maintenant de votre silhouette. Vous savez que la natation, c'est excellent pour ça, hein, ça muscle tout. Vous aimez ça, aller à la piscine les uns les autres? Régis Maillot avec votre nom, on va pas vous poser la question.
Ah, mais moi, je suis
un. C'est évident. Les autres, vous aimez ça, la piscine?
Pas tant.
Pas tant. Je vais vous donner envie. Je vous donner envie parce que la piscine, ce n'est pas de la natation. C'est aussi l'occasion, là encore, de se faire du bien. Explication dans les maternelles.
C'est une étude canadienne révèle que si on analyse l'eau d'un bassin d'une piscine de taille standard, une piscine classique, on trouve en moyenne par piscine donc 75 litres d'urine. Voilà, voilà, bonne journée à Minageur. 75 litres, ça fait beaucoup, qu'on n'aille pas dire qu'il y a uniquement les petits qui font pipi.
Miam, miam, ça donne plus encore envie de boire la tasse. Maintenant, on sait ce qu'il y a dans la tasse. En plus, il faut rajouter quelques champignons, généralement, qui sont offerts par la maison. Bref, c'est très nourrissant.
Et vous traînez dans quel genre de piscine?
Bah, c'est celle où vous allez.
Oui, non.
Ouais. Mais quand le problème, c'est que je passe après vous.
On nous disait quand on était enfant qu'il y aurait un cercle rouge qui allait se...
Ah, qui allait se dessiner?
Dessiner si jamais on faisait pipi.
Ah bah manifestement, non.
Il y a autre... Et vous l'avez jaune. Cru
bah, oui, donc... Alors, on termine avec le nouveau.
Attendez, parce qu'on est dans la dégustation. On déguste que de bons produits, la piscine, ce qui n'est plus le cas alors, dans les supermarchés. France 5 toujours a diffusé un documentaire, alors pour le coup, assez flippant, écoutez.
Nous sommes très nombreux à souffrir d'une insuffisance en micronutriments, comme le fer, le zinc, car au cours de ces 50 dernières années, les aliments que nous consommons au quotidien auraient perdu jusqu'à 75% de leur valeur nutritive. Ainsi, pour retrouver l'apport en vitamine C d'une pomme des années 50, il faudrait en consommer 100 d'aujourd'hui. Profiter de la vitamine A d'une orange de la même époque nécessiterait d'en manger 21.
Donc en fait, c'est pas 5 fruits et légumes par jour, mais 100 fruits et légumes par jour pour retrouver l'apport des fruits de 1950.
Et on termine avec le nouveau jeu de TF1.
Oui, ça s'appelle The Wall, ça cartonne tous les soirs à 19h. C'est présenté par Christophe Dechavanne, 4 millions de téléspectateurs. D'ailleurs, je voulais vous demander, Patrice Carmouze, est-ce que c'est vous qui avez inventé les règles du jeu pour Christophe Dechavanne?
Elles sont compliquées.
Ça, c'est votre ami, oui. Et écoutez les règles, elles ont été compilées par Quotidien. Et effectivement, on dirait du Carmouze.
C'est très simple, à chaque question, 3 boules blanches seront libérées du haut du mur. Lorsque les boules du mur sont vertes, vous remportez les sommes qu'elles atteignent. Si c'est une bonne réponse, les boules deviendront vertes. Et pour ça, vous devez répondre en appuyant sur A ou B, bien évidemment. On terminera la manche avec 2 boules rouges, surtout avant qu'une des 3 boules ne franchisse cette ligne laser. Plus vous placez les boules à droite, moins vous êtes confiant. Si c'est une mauvaise réponse, les boules deviendront rouges et on enlèvera cet argent de la cagnotte. C'est simple.
Très. Merci Patrice Carmouze. Vous avez une bonne idée encore.
Bravo Patrice. Allez, on retrouve Philippe et Elodie dans un instant. Et puis Old Love pour sa chanson.
Parole, parole.
Écoute-moi, c'est étrange.
Parole de l'AF.
Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Elodie et bonjour Philippe. Écoutez, c'était un moment que j'attendais vraiment dans cette émission, puisque c'est ma chronique. Alors évidemment, je voulais faire quelque chose. Non, 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 vraiment, ouais, ouais. C'est vraiment ce que j'attendais, c'est mon moment. Alors ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose de commun pour faire quelque chose qui vous aille à tous les deux. Donc j'ai potassé, j'ai travaillé tout simplement. Donc je me suis rendu compte que c'était un peu le cinéma, mais c'était un peu mou, je trouvais, comme point commun. Parce que bon, Jean-Claude Van Damme et Micheline Prénel aussi, c'est leur point commun. Bon, voilà. Donc j'ai cherché, je me suis rendu compte que vous, Philippe, vous étiez né à Fontenay-sous-Bois, si je ne dis pas de bêtises.
Ah oui.
Et vous, Elodie, vous êtes née à Bondy. Donc, votre point commun, c'est la 86. Donc, j'avais fait toute une maquette, en fait, avec la topographie des lieux. C'était hyper sympa. Et puis, Stéphane m'a dit, non, fais pas ça. Alors, bon, comme vous nous avez offert un chef-d'œuvre d'humour avec le film Alibi, puis les autres également, moi, je vous ai fait un chef-d'œuvre de tristesse avec la chanson qui suit. Voilà.
La tristitude, c'est quand tu dessines un cyclope mais de profil. C'est être le décorateur de Buffalo Grill. C'est Joe Starr et Jerry de Fluocaril. Et ça fait mal. La tristitude, c'est quand on t'oblige à voir un match de curling. C'est si Christine Boutin jouait dans Trainspotting. C'est quand Jean-Luc Lahaye fait un babysitting. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous. C'est quoi? C'est d'un baladadras dans la grenade. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est eux, c'est vous, hein, c'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. La tristitude, c'est quand un aveugle veut jouer à Shifumi. Si Pénélope voit votre film sur les alibis, c'est quand sur une chaîne d'infos tu vois Morandini. Et ça fait peur, la tristitude. C'est si Macron découvrait un jour son programme. C'est dire le poids de Maria James en milligrammes. Si Mélenchon avait moins de voix que son hologramme. Et ça fait mal, 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 la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la tristitude. C'est c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie de ma main du doux. La tristitude, c'est faire de la moto sans casque avec Bayrou. C'est si François Fillon allait vraiment au bout. C'est le PSG à Santiago Bernabéu. Et ça fait nul, la tristitude. Les émissions où Berne n'est pas dans un château. Quand tu crois voir Régis Las Palès avec ses maillots. Quand Élodie a froid, alors Philippe l'a chaud. Et bon, on avait fait la blague au début, mais j'ai écrit ma chanson. Hein. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la la tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. Oh, c'est la vie qui le dit que ça va pas du tout. Non, 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 la tristitude. La tristitude, la tristitude te donne la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude, non, 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 non. La tristitude.
Merci, Oldenaf. C'est sympa, non?
J'adore. Oui. J'étais fan de sa première version déjà de la tristitude. J'adorais, on se tapait des bars avec mes potes. Donc merci pour ce bel hommage. Il y a nos noms maintenant dans ta chanson.
Ouais, on va aller la récupérer sur
internet. Sur internet, rtl.fr.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Philippe et Elodie pour alibi.com. Alors c'est l'interview où. C'est un peu dans le même esprit que la chaud, la froid. Hein,
voilà. Je l'ai bien senti au titre.
Il faut choisir des choses impossibles. Vous préférez écrire ou réaliser?
Ah, très bonne question. J'adore écrire. Hmm. Ouais, j'adore ça.
Plus que réaliser, donc?
J'adore réaliser.
Le premier moteur, c'est l'écriture.
Mais c'est vrai que je m'amuse beaucoup à écrire. Hmm.
Alors, les deux, vous préférez voyager ou rester chez soi?
Ah bah, voyager. Voyager, j'adore. Ça. Ah ouais, j'adore. Découvrir de nouveaux pays, aller au chaud aussi.
Aller dans une cave aussi, ça peut peut-être aider. Oui.
Ça s'explique. Et je sors de ma cave, je suis contente. Oui.
Vous préférez, Philippe, Laurent Ruquier ou Michel Denisot?
Ah, oh, c'est dur. Non, c'est très dur, parce que j'adore vraiment, sincèrement, les deux. Michel, voilà, j'ai une super expérience au Grand Journal. J'adore. Et Laurent aussi, que j'adore, qui m'a tendu la main quand j'avais plus rien. Il m'a invité à faire de la radio. J'étais très nul, donc j'ai arrêté très vite. Mais il m'a tendu la main. Non, les deux, je les adore. J'adore de coup Laurent Denisot.
D'accord. Clavier ou Junio?
Oh, c'est dur. Ouais,
je sais. C'est horrible. Je t'avais dit que c'était
on peut choisir comme son père et sa mère. C'est ça.
Julie, Clavier ou Depardieu?
C'est pareil, c'est très dur de choisir, mais après peut-être Gérard Depardieu parce que c'est lui qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier-là et que c'était une expérience complètement folle, donc peut-être pour ça je dirais Gérard Depardieu.
Vous préférez les vacances en famille ou entre potes?
Ses parents écoutent l'émission.
Et c'est pas ça.
Ses parents écoutent l'émission.
Et ils vous sont invités pour les prochaines vacances.
Non, mais en même temps, je vois mes parents à peu près. Je suis très très famille, donc je vois ma mère et mon père à peu près deux fois par semaine, enfin très très régulièrement. Et je l'ai au téléphone ma mère tous les jours. Donc du coup, partir en vacances avec mes amis. Voilà. Je les vois assez.
Mer ou montagne?
Mer ou montagne? Ah bah mer.
Ski nautique à la mer.
Même pas. Ski nautique, c'est vraiment pas mon truc.
Avec vos amis ou avec votre mère?
Et vous, Philippe, vous préférez le succès public ou le succès critique?
Public.
Public.
Ah, oui,
évidemment. Ouais, oui, bien évidemment. Sûr. Elodie, les séries télé ou le cinéma?
Le cinéma.
Le cinéma. Mmh. L'amour, pour les deux, l'amour ou le boulot? Alors, ça peut être l'amour au boulot aussi.
Ah, ou tcha-tcha-tcha.
L'amour.
L'amour. Ouais. Ah oui, l'amour.
Ouais.
Mmh. Un film ou un enfant?
Putain. J'ai mes parents encore qui écoutent aussi l'émission, bah, donc je voudrais pas trop m'avancer et dire des conneries.
C'est
très compliqué. Les deux, un après l'autre.
L'un après l'autre, voilà. Elle finit le film, elle fait un enfant après.
Baby-sitting, hein. C'est
réglé. Oui. Ouais. Oui. Non, mais à force de faire du baby-sitting, il faut faire des enfants. Oui. Très bien. Mais, et c'est vrai que vous êtes... Alors, j'ai vu plein de choses dans l'actualité. Philippe, il y a Épouse-moi mon pote, c'est ça?
Oui, le premier film de mon copain Tariq Boudali. Voilà, il a réalisé son premier film et j'ai la chance de jouer dedans. Il m'a offert un super rôle.
Et vous, Élodie, dans Kalimocho?
Ah oui, bah, qui a changé de titre.
Il a changé de titre.
Voilà, il s'appelle Avalon 2.
Et il va s'appeler comment?
Ça claquait un peu plus. Il va s'appeler Mission Pays Basque.
Oui.
Et il sortira début juillet.
Non, début juillet. Et il y a un film d'un réalisateur suisse, je crois, qui s'appelle Christophe. C'est ça, Christophe. Non, c'est...
Non, il a changé de nom, lui.
Il a changé de nom. Ouais, vous êtes tous les deux... Non, ça, c'est pas fait.
C'est
C'est un film porno. Et ils n'ont pas été retenus.
Là, ils ont fait une version porno d'Alibi, on l'a vu il n'y a pas longtemps.
Ah oui,
oui, c'est vrai, on a vu la photo.
Ouais, Alibi, il m'a marqué trompez-vous, on s'occupe de tout. Ouais, il m'a marqué ça.
Ça va faire 3 millions d'entrées, peut-être.
Ouais, peut-être. Ouais, d'entrées, je ne sais pas si c'est des entrées.
Des sorties.
Eh bien, on va retrouver Patrice Carmouze maintenant. Pour son test musical, à tout de suite.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Et je vous rappelle que nous jouons pour faire gagner à nos auditrices ou auditeurs un week-end merveilleux dans l'un des hôtels et casinos du groupe Partouche. Allez voir sur partouche.com. Et alors, Philippe, Élodie et moi, nous jouons pour faire gagner Claudine. Alors que Oldelaf, Régis et Eric jouent pour faire gagner Fabienne. Et nous jouons avec les chansons qui ont trait
aux... les voleurs, les gendarmes, les flics, la police, enfin...
Enfin, sur le monde entier, quoi.
Voilà. Enfin, bref, non, pas tous ceux qui aiment la Libye.
La Libye.
Le thème, c'est le monde et ses alentours.
La Libye, c'est un pays, c'est un pays, la Libye.
Oui, sens policier. Il faut reconnaître qui chante, hein, tout simplement. On va commencer... C'est vrai que vous avez une passion pour les acteurs un peu anciens, ça. Peut-être encore plus ancien que tout à l'heure. Vous devinez qui chante, voilà.
D'accord.
Le voleur de Terre.
Ah, je sais, moi, c'est Bourville. C'est Bourville.
Il est encore en prison.
Le voleur de...
La volée de perdants.
On joue tous en même temps
ou... Non,
c'était eux.
C'est nous.
D'accord,
c'est notre équipe.
C'est équipe par équipe.
Équipe par équipe, Oldelaf. Il faut respecter pour ne pas se chevaucher.
Mais non, ça change à chaque fois. Moi, je suis complètement perdu.
C'est pour vous, Oldelaf, maintenant.
Ah, c'est parti, je suis
allez.
Ah, c'est Serge Gainsbourg, tout simplement. Voilà.
Si je gêne même plus pour regarder les réponses.
Mais comme ça.
Oui.
Parce que un partout.
Stéphane, je veux bien qu'on arrête de se chevaucher. C'est une élégance première, mais il faut arrêter de tricher aussi.
Mais
il n'y a pas de reproche là-dessus.
Il n'y a pas de
reproche.
Les auditeurs cautionnent le fait que vous trichiez manifestement. Bravo, monsieur dame.
Non, pas forcément. Alors maintenant, c'est pour vous avec Stéphane.
Mon front est moite, je tremble un peu.
Ah,
non.
Je suis nerveux.
C'est Aznavour.
C'est
Aznavour.
Oui, bien sûr.
C'est moins facile sans les réponses, Stéphane, tout de suite.
Aznavour jeune.
Aznavour jeune, d'une chanson qui est peu connue qui s'appelle Au voleur, où il raconte qu'il va voler et il tremble un peu avant de voler.
J'aimais bien ces orchestrations un peu 70s.
Ouais.
Ah, celle-ci, non, t'as pas connu.
Ok,
voilà. Chanson suivante, alors.
Bon, radio.
C'est pour vous, Régis.
C'est un thème.
Un thème.
Ouais.
Stéphane et Élodie.
Dont Joey Star est dans le film.
Oui, dans le film de.
Absolument.
Oui. Alors, prochain, c'est pour vous.
Ah, bah oui.
Ouais, c'est bon.
Alors, moi, je connais la version de la Star Academy.
Ah, ouais, si, j'ai dit Michel.
Mais je connais même pas la
Gilbert Beco.
Ah, Gilbert Beco.
Non, alors, là, c'est là pour moi le creuset générationnel. C'est Michel de la Star Academy.
Vous êtes pauvre. Ça part moi. J'ai pas volé l'orange.
Qu'est-ce qu'il devient? Il retourne au pays?
Ah, bonne question. Peut-être qu'il vend des oranges.
Il est Michel Mérezin.
Eric, Michel. Pour vous ça.
Oui, Michel. Sting, Police.
Ah, ouais.
Ah, ouais. C'est l'histoire d'une prostituée. Hein.
Oui, mais c'est The Police.
D'accord. Bah, c'est un peu comme la choux. Alors.
Cela dit, il y a des prostituées qui peuvent finir la police.
J'aimerais préciser que Patrice n'entre pas forcément dans le fond des chansons. Ce qui l'intéresse, c'est si c'est les voleurs, les polices.
Ah, non, mais là, c'est des polices. Police. J'en ai mis une autre tout à l'heure qui n'a aussi n'a aucun rapport avec ça, mais non, les mots sont les mêmes. Eh ben, ça, c'est pour vous maintenant.
Je mettais la main sous l'oreiller.
Claude Nougaro.
Là, c'est bien. Hold up, hein.
Oui, un hold up amoureux.
On est à égalité, là.
On est à 4 à 3.
4 à 3
pour Stéphane et nos invités.
Stéphane,
c'est
à
l'heure de la fin maintenant.
Non, mais parce qu'ils ont une question.
Oui, une question d'avance.
C'est à vous.
Ça, c'est Annie Cordy.
C'est une nickel de sécurité. Et quand je suis entre ses bras, rien ne peut m'arriver. La terre peut bien s'écrouler. Moi, j'aime me galonner. Ses compagnies républicaines de sécurité.
Donc, CRS. Hein.
Stéphane en a fait des soirées là-dessus. Hein,
Et non, mais j'adore ma Nini. Je l'embrasse.
Des soirées déguisées. Hein.
J'adore.
Alors, on a plus beaucoup de temps. Alors là, je vous avais dit que
donc
c'était une
gagné,
chanson, qui, une chanson qui parle de ça, qui n'est pas forcément
Patrice,
sur les voleurs.
Il faut que ça soit un duel. Hein,
ouais, alors,
que,
bah, c'est, le premier qui trouve ça.
Mes chers parents.
C'est Louane.
C'est Eric.
C'est Eric.
Je vous ai.
On a gagné. C'est donc Fabienne, alors.
C'est Fabienne qui a gagné le séjour offert par le groupe Partout chez Hôtel. Merci à Partouche.com.
Désolé, Claudine.
Ouais,
merci à tous les deux.
Ça. Merci, Élodie Stéphane.
Élodie Fontan et Philippe Lachaud, bravo pour ce beau succès.
Merci beaucoup, Stéphane.
Partouche.com. Ça veut dire que vous allez continuer à faire des films pour notre plus grand plaisir.
Merci.
Bonne continuation. Demain, nous serons avec Julie Ferrier dans La Bonne Heure. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'RTL et à demain. RTL, il est midi et demi.